Au revoir.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Minuit 26 sur Europe 1, votre radio. Et nous accueillons Jeanne maintenant. Bonsoir, oui, Jeanne.
Allô. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir, Jeanne.
Merci de me donner la parole.
Je vous en prie. Comment ça va?
Je vais résumer mon histoire.
Oui.
Parce que mon objectif est que quelqu'un puisse l'entendre et vouloir l'écrire. Parce que j'ai une mauvaise vision et je ne peux pas le faire.
D'accord.
Voilà. Alors donc, ça se rapporte à la période coloniale française.
Oui.
Dans les pays africains.
D'accord.
Bon, moi, la colonisation française de l'Afrique a été facile là où il y avait des chefs, parce que souvent il suffisait de passer des traités avec les chefs pour avoir la population. Mais dans les régions sans organisation étatique, comme le peuple de ma mère, qu'on appelle les lobbies,
oui.
Au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, c'est chaque. Les villages étaient composés de matriclans. Et les décisions politiques se prenaient, tous les chefs de famille se réunissaient pour prendre les décisions politiques.
D'accord.
Voilà. Donc ça s'organisait comme ça. Et quand l'administration coloniale s'est installée, ça n'a pas été facile. Ils se sont battus avec leurs arcs et leurs carquois contre des fusées et des canons.
Mm-hmm.
Je ne vous dis pas la mortalité qu'il y a eu dans la population autochtone.
C'était en quelle année, ça, à peu près, la
colonisation? Et là, moi, le dernier bombardement de ma région, et le bombardement par les Français, ça a été en 1956, et les indépendances sont arrivées en 1960.
D'accord.
Donc, la conquête est partie de 1885, et se sont battus jusqu'en 1956.
D'accord, oui, je ne savais pas, vous voyez.
Ah oui, ça a été hyper dur. Donc, et même quand l'administration de la Haute-Volta a repris les rênes, ça n'a pas été facile. Ils ont été obligés de mater encore la population. Maintenant, les choses se sont calmées.
Oui.
Et je voulais vous parler surtout du comportement que les colonisateurs ont eu vis-à-vis des femmes.
Oui.
Parce que comme c'était des régions politiquement difficiles, forcément, ils venaient sans épouse. Et donc, ils faisaient enlever les jeunes filles au cours des réunions qu'ils organisaient, soit pour le dénombrement de population, soit pour les vaccinations. Les gardes, c'est-à-dire les militaires qui les suivaient, c'est eux qui enlevaient les plus belles, forcément, et puis des nubiles, en plus.
Mm-hmm.
Donc, l'administrateur avait une sorte de gynécée, chez lui, où il puisait ce qu'il voulait, et puis il distribuait comme ça aux autres blancs qui étaient là. Et moi, je suis née d'une de ces distributions. Un soir, il a dit à mon père qui venait prendre l'apéritif, « Ah, monsieur un tel, vous qui êtes doux et gentil, peut-être que vous viendrez au bout de cette rebelle qui est là et dont je ne peux rien faire. » Donc, il l'a envoyé là-bas et il l'a gardé. Et ma grand-mère, nous sommes des matrilinéaires, ma grand-mère venait tous les matins à 5 heures du matin pour lapider ses volets, lapider les volets pour que les blancs dorment mal. Par finir, il a quand même eu ce qu'il voulait et puis ma mère est tombée enceinte, c'était sa première grossesse.
Oui.
Et ma grand-mère est venue faire le sitting devant sa maison. Jusqu'à la nuit comme le jour, en lapidant ses volets, pour qu'il puisse lui donner sa fille. Parce que quand on tombe enceinte, surtout la première grossesse, il fallait faire des cérémonies, ainsi de suite. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on faisait?
Lui, il n'avait pas voulu faire les cérémonies déjà? Il ne voulait pas les faire?
Ah non, mais les blancs, c'est pas ça. C'est la maman, c'est les grands-mères qui font les cérémonies parce qu'il faut... Ma grand-mère disait, je ne fais pas avorter ma fille parce que toutes les filles qui étaient tombées enceintes de l'administrateur et puis des autres... On les avait fait avorter. Ma grand-mère a dit, moi, je ne fais pas avorter ma fille. Même si c'était, même si elle met un enfant vert au monde, je m'en fiche, je garde l'enfant. Donc, moi, je veux ma fille, c'est tout. Donc, elle a fini par récupérer sa fille. Et puis, c'est comme ça que moi, je suis venue au monde. Et elle est allée dire à l'administration, voilà, l'enfant est né, mais je ne vais pas voir de garde devant ma maison parce que je ne vous donnerai pas l'enfant. Ce qui se passait, c'est qu'en général, on reprenait les petits métis et on les envoyait dans des centres qu'on appelait les orphelinats de métis. En fait, il y en avait à Benjerville, en Côte d'Ivoire, il y en avait au Soudan, c'est-à-dire le Mali actuel. Et il y avait un nouveau centre qu'on commençait à mettre en Haute-Volta. Mais comme il n'y avait pas assez de métis, on les envoyait dans les autres états voisins. Moi, j'ai eu une chance terrible. On m'a envoyé nulle part. On m'a envoyé chez des religieuses à 40 kilomètres de là où vivait ma mère. Donc, j'ai pu vivre parmi mon peuple et j'ai grandi comme ça. Et puis voilà quoi, j'ai eu la chance d'avoir...
Ce que vous êtes en train de m'expliquer, Jeanne, c'est que tous ces colons, donc, qui faisaient des femmes, qui faisaient des enfants avec les femmes autochtones,
oui.
Eh bien, on enlevait les enfants et tous ces petits métis, on les mettait dans les orphelinats.
Voilà, la plupart, on les enlevait, mais pas dans notre région, justement.
Non, parce on les déplaçait, ça...
Voilà.
C'est ça.
Voilà.
Ah oui, je n'ai jamais entendu parler de ça. Jamais.
Dans les pays, dans les régions à organisation étatique, ils ne voulaient pas de métis. Donc, quand les petits métis naissaient, s'ils ne les abandonnaient pas, en tout cas, ils faisaient en sorte que l'administration les récupérait pour les mettre à l'école. Mais dans les régions, dans des régions comme la nôtre, sans État, c'est-à-dire clanique,
oui.
Il n'en était pas question. Parce que les enfants appartenaient au clan maternel.
Oui. Et vous, lorsque vous êtes atterri donc chez les sœurs, votre mère pouvait quand même voir un peu, savoir où vous étiez.
Oui, elle venait me voir. Elle était à 40 kilomètres, donc elle venait me voir le plus qu'elle pouvait. Et puis après, elle a émigré en Côte d'Ivoire. Et puis c'est ma grand-mère qui venait me voir. Non, mais j'ai vécu. En plus, c'est la même région, c'est le même peuple. On parlait, c'est la même langue. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir vécu parmi mon peuple et de connaître toutes les coutumes du pays, quoi, et de parler parfaitement la langue et ainsi de suite, ce qui n'était pas donné à
tout
tous
le monde.
Ces pauvres enfants, quoi.
Voilà,
mais c'est une pratique que beaucoup d'Européens ne connaissent pas parce que forcément, même dans l'histoire coloniale, on ne raconte pas ces choses-là.
Mais non, parce que c'est la première fois que j'entends parler de ça. Et donc, ces petits métis qui étaient déplacés comme ça, ils étaient adoptés ou on les emmenait jusqu'à la majorité comme ça et on les lâchait dans la nature?
Non, par exemple, ceux qui étaient envoyés à Benjerville, on est tous des pères inconnus, je vais vous dire. Tous. Parce que j'ai connu un ou deux blancs qui ont reconnu leurs enfants métis.
Oui.
Mais ça, c'est en plus, c'était tardivement dans la colonisation, c'est-à-dire les années 50, les de la force. Mais autrement, c'est tous des enfants de pères inconnus. Et moi, j'ai toujours pleuré toute ma vie jusqu'à ce que je vienne faire mes études universitaires en France et que je retrouve mon père. Je l'ai cherché.
Vous l'avez retrouvé?
Je l'ai cherché.
Vous l'avez retrouvé?
À partir des archives.
Ah oui.
de l'école où qu'il dirigeait, et je l'ai retrouvé, et on était devenus les meilleurs amis du monde. Je ne lui demandais rien, je voulais juste le connaître.
Oui.
Je ne voulais rien,
et
je
ne
lui demandais pas d'argent,
alors,
je ne voulais pas... Et il a voulu me reconnaître, et moi j'ai dit non, moi je ne veux pas mettre des histoires dans ta famille, moi je voulais juste voir le visage de mon père.
Oui.
On ne peut pas vivre sans... C'était terrible de vivre sans savoir comment... Celui qui t'a mis au monde, à quoi il ressemblait.
Bien sûr, bien sûr. Et alors, il ressemblait à quoi, ce papa, dites-moi?
Ben c'était, il était pas mal, c'était un bel homme. et puis surtout, il avait une sorte de contrition parce qu'il disait, tu comprends, moi, c'est pas parce que j'étais rejeté, j'ai aidé ta mère jusqu'à ce que tu aies l'âge de l'école, mais j'étais mariée en France, j'avais des enfants et c'était très compliqué. Quand j'étais à Saint-Louis, je voulais... Bon, il m'a expliqué sa situation. Et moi, comme je suis historienne et que j'étudiais l'histoire coloniale, j'ai écrit toute une thèse sur l'histoire coloniale, qui a été publié d'ailleurs. Et donc, je comprenais le contexte. Et je ne lui en voulais pas. Je ne lui en voulais pas. Parce que si on ne comprend pas le contexte, là, on peut dire, ah, c'est un type qui...
Oui, non. On peut fantasmer, on peut penser
on
à plein de choses.
On peut fantasmer, voilà, c'est ça. Et comme j'ai étudié le contexte dans les archives et tout, Bon, moi, ça m'a permis de faire le, de ne pas aller voir les psys pour faire de je ne sais quoi.
Mais oui, bon, oui, moi, oui, oui. Vous avez pu vous construire
psy,
avec
les archives.
Ouais. Vous avez pu vous construire avec l'image de votre
exactement.
Père.
Exactement. Ouais. Exactement. Je me suis construite en écrivant ma thèse de doctorat.
Ouais.
À la Sorbonne.
Et lorsque visiblement, il était heureux de vous que vous le retrouviez.
Ah, il était heureux de faire ma connaissance. Parce qu'il avait gardé en tête quand même le visage de ma mère et il me disait ta mère était tellement jolie, ça ne m'étonne pas, tu es comme ta mère. Dit, non, mais je te ressemble un peu aussi quand même.
Et du coup, est-ce qu'il a fini par parler de vous et de votre existence à sa famille ou pas?
Oui, j'étais invitée chez eux et je rends hommage à sa femme qui m'a bien acceptée.
Oui. Vous aviez des frères et sœurs?
Voilà, j'avais deux grandes sœurs et puis un grand frère qui doit être général maintenant dans l'armée française. Enfin,
d'accord.
Il était pilote dans l'armée française.
Ouais.
Bon, mais il y a qu'une sœur, une de mes sœurs qui a voulu me voir. Les autres, j'ai pas insisté. Ils n'ont pas voulu. Je voulais pas me mêler de leur vie.
Oui, oui, oui,
ils n'ont pas
comprends.
Voulu parce que leur père leur a parlé de moi. Et il y a une seule qui m'a accueillie dans sa famille, tout. Bon. Et puis j'allais souvent voir mon père avec mon mari. Et malheureusement, il est mort quand mon premier fils est né. Il n'a pas pu le voir, mais il aurait été content parce que mon fils a les yeux bleus. C'est étonnant pour une métisse qui fait un enfant aux yeux bleus. Mais mon père avait les yeux bleus aussi.
Ah oui, oui.
Et
donc, il ressemble à son grand-père, donc.
Ah oui. Il a les yeux bleus de son grand-père. Et ma demi-sœur, donc, et sa fille avec qui je m'entends bien, dit « Ah, c'est mon père qui aurait été content.
» Il est parti, votre papa, maintenant?
Mon père est mort.
Oui, il est mort il y a combien de temps maintenant?
Oh, ça fait un moment, parce que c'est simple, il est né le 1er janvier, il est né le 10 janvier 1900. Ah, c'est pas hier. Hein.
Ah oui, le 10 janvier 1900, ah oui.
Voilà,
d'accord.
10 janvier 1900. C'est pas d'hier, ça date pas d'hier.
Non, non.
Il est de la région d'Orléans. Il
d'accord.
est né à Failly-aux-Loges.
D'accord, donc il devrait avoir 119 ans, c'est ça?
Ah oui, il aurait 119 ans.
D'accord.
Mais je vais souvent sur sa tombe. Hein.
Ah oui, oui. Et
ben oui,
comment est-ce que vous en êtes arrivé, vous, à faire votre thèse? Enfin, comment vous êtes arrivé en France? Votre maman a déménagé ensuite. Vous êtes venue toute seule en France ou votre mère vous a accompagnée?
J'ai eu la chance d'avoir bien réussi dans les études et primaires et secondaires
oui.
et supérieures. Et après, donc, au vu de mes études supérieures en Afrique, la France m'a donné une bourse pour faire une maîtrise et un doctorat à la Sorbonne.
Ouais.
C'est comme ça que je suis arrivée. C'était la coopération, quoi, les bourses de la coopération.
D'accord.
C'est comme ça que je suis arrivée en France.
Et donc, du coup, après, qu'est-ce que vous avez fait comme...
J'ai enseigné à l'université.
D'accord.
Oui.
Où ça?
L'histoire coloniale.
L'histoire coloniale, d'accord. Bon, il y en a à dire hein, sur cette histoire coloniale.
Ah oui, beaucoup.
Ouais.
Beaucoup. J'ai enseigné l'histoire coloniale, oui.
Et justement, comment les... Parlons de ça un peu, parce que c'est vrai qu'on n'a pas... On n'en parle jamais ici. On n'a pas eu l'occasion jusqu'à maintenant d'en parler. Mais comment réagissaient vos élèves, vous qui la connaissiez bien, cette histoire coloniale? Est-ce que... Elle intéressait tous ces jeunes gens?
Ah oui. Ah oui. Ils étaient très, très, très intéressés. Parce que bon, ça fait partie d'eux-mêmes. Leurs parents ont vécu ça, ils ont vécu les travaux forcés. Et la plupart de leurs parents ont vécu les travaux forcés, et leurs grands-parents surtout. Donc, ils connaissaient un peu ça par ce que les grands-parents leur ont raconté sur le travail forcé. Ici, on ne parle pas de travail forcé. Non, mais les Africains peuvent vous en parler parce que les gens étaient mobilisés tellement pour faire les travaux, creuser ouvrir les routes, construire des maisons,
oui.
À tel point qu'ils n'avaient même pas le temps de faire leur culture et que ça amenait la famine dans certaines régions.
Parce que aujourd'hui, vous voyez, parlons d'aujourd'hui, justement, souvent on parle de ce... voilà, de cette histoire. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes hein, d'origine africaine revendiquent cette histoire au nom de leurs parents. Et souvent, quand ils sont en conflit, hein, lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver de travail, comment vous considérez cette problématique-là aujourd'hui pour ces jeunes? Comment, à votre avis, comment ils vivent ça, ces jeunes de 17, 18 ans, 20 ans, 25 ans aujourd'hui? Vous continuez, je suppose que vous continuez d'échanger avec...
Ici en France, oui, mais en Afrique, le problème ne se pose pas de cette façon.
Hein. Non, je me doute.
Depuis les indépendances, ceux qui sont jeunes maintenant, eux, ils sont nés sous l'indépendance.
Oui.
Donc, ils n'ont pas ce genre de problème. Mais c'est des régions comme les Antilles ou bien les Africains qui vivent en France qui ont ce genre de problématique-là dans leur vie. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Je ne sais pas ce qu'on peut en faire de ça.
Non, je ne sais pas. Mais souvent, il est revendiqué par ces jeunes, justement, cette rage hein, qu'il y a, cet esprit de révolte. Je l'ai souvent entendu.
Je ne dis pas que c'est inutile, mais je pense que l'histoire, c'est l'histoire. Hein,
oui.
Et on ne peut pas la refaire. Et ils vont taper sur qui? Leur colère, ils vont taper sur qui?
Les gens qui ont
20 ans maintenant, qui ont 30 ans, eux, ils n'y sont pour rien.
Non, bien sûr. Ils n'y sont pour rien, mais quelque part, j'entends dans leur rage, hein, souvent dans leur révolte, le fait justement d'avoir eu des parents qu'on a forcés à venir en France, qu'on a parqués comme ça, parce qu'on en avait bien besoin à l'époque.
Oui, et puis, bien sûr.
Et c'est vrai, ça. On ne peut pas nier ça.
Ils se révoltent contre cet aspect de l'histoire coloniale, effectivement. Ils se révoltent contre la force noire de Mangin. Les tirailleurs, ils avaient mobilisé pratiquement. Le pays qui a le plus, figurez-vous que le pays qui a le plus fourni de soldats, des soldats pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale.
Oui.
C'est pas ce qu'on croit. C'est le pays comme la Haute-Volta, c'est-à-dire le Burkina Faso, parce que c'est un pays très peuplé.
Oui.
Et c'est celui qui est le plus pauvre. C'est le pays le plus pauvre de la région.
Mm-hmm.
Bon, c'est étonnant, non?
C'est très étonnant.
De Gaulle l'appelait le pays des hommes. Il appelait la Haute-Volta le pays des hommes.
Oui, le général de Gaulle, oui.
Voilà, le général de Gaulle. C'était très peuplé et jusqu'à présent, ils ont taillé. Moi, je suis très, très, très révoltée contre la manière dont ils ont taillé les territoires. Ils savaient très, très bien quand ils créaient un pays parce que le Burkina Faso a été un des derniers territoires créés en Afrique de l'Ouest. Ils savaient très bien qu'en créant ce pays, parce qu'il y a les archives. Il disait, mais c'est économiquement invivable. Il y a le rapport sol, on peut le lire. De 1932 et 1947, on peut lire le rapport sol aux archives. Il disait, mais c'est criminel de créer un pays pareil. Jamais ils ne pourront s'en sortir. Mais non, pour eux, ça les arrangeait. Ça arrangeait le chef des Mossi, c'est-à-dire la population la plus... l'empire Mossi qui est au centre, bon... Les Mossi, ils ont formé un grand empire depuis, je ne sais pas quoi, le 7e, le 8e siècle.
Oui, et
donc ça les arrangeait.
Ça les arrangeait pourquoi? Parce qu'ils étaient les plus riches.
Voilà, d'avoir un territoire où ils dominent, hein, et de ne plus dépendre de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on faisait partie de la Côte d'Ivoire. Une partie faisait partie du Niger, et l'autre partie, la plus grande partie de la Haute-Volta, était partie intégrante de la Côte d'Ivoire. Donc nos gens travaillaient dans les plantations de la Côte d'Ivoire. Ils continuent d'ailleurs d'y travailler, mais en tant qu'étrangers, alors qu'ils étaient ivoiriens.
D'accord.
Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il y avait, c'est un pays où les gens ont beaucoup de rancœur. Ils vivent vraiment beaucoup de rancœur contre le gouverneur général de cette époque-là.
Mais le gouverneur général de cette époque-là, c'était un Français.
Oui, le gouverneur général était à Dakar.
Oui.
C'est eux qui ont reproposé la création de la Haute-Volta avec l'empereur des Mossi. Parce que lui, ça l'arrangeait d'avoir les autres pays. Parce que les autres disaient, mais si les Mossi veulent, avec leur empire, reconstituer leur empire, nous on s'en fiche, nous, on n'est pas Mossi. On veut rester là où nous sommes.
Oui.
Nous sommes Ivoiriens.
Mm-hmm.
Oui, mais... On n'écoute pas des peuples matrilinéaires divisés en clans, ils ne sont pas organisés en États. Bon, c'est compliqué de...
Vous savez, je pense qu'à cette époque, hein, les gens qui étaient qui avaient le pouvoir, hein, les colons. Hein, voilà. On fait leur petite tambouille, hein, comme on dit, quoi, ce qui les arrangeait.
Il faut voir comment ils fabriquaient les petits métis, hein, furé.
Et alors, revenons-en à ces petits métis, justement, parce que vous me disiez que vous aimeriez que cette histoire soit écrite un jour.
J'aimerais que quelqu'un puisse écrire cette histoire de moi-même, quoi, parce que je n'y arrive pas, je ne vois plus très clair. Et si vraiment quelqu'un m'entend et qu'il est historien, sociologue, ethnologue, et qu'il veut bien l'écrire, moi je suis prête à tout lui raconter du début jusqu'à la fin. Pour que vraiment, parce que moi ça m'est tellement égal, mais ça peut servir. Ça sert aux Africains de connaître leur histoire. Parce que les jeunes actuellement, d'abord les vieux sont déjà morts et ils ne savent plus qui va leur parler de ça.
Parce qu'il n'y a pas de livre qui retrace tout ça.
Il y a très peu de livres. J'en ai écrit un qui part de 1885 à 1914.
Oui.
Et j'avais fait des recherches. J'ai toutes les archives possibles. D'ailleurs, je cherche un jeune historien africain pour lui céder toutes mes archives. Ça va jusqu'en 1947 pour qu'il puisse écrire.
Et transmettre ça. Transmettre, voilà, surtout, oui.
Pour qu'il puisse écrire avec ce que je vais lui donner. La suite, c'est-à-dire de 1918. À 1947.
C'est terrible, c'est terrible ce que vous racontez quand même, hein, Jeanne, parce que qu'il n'y ait pas de bouquin, en tout cas de manuscrit d'histoire, de l'histoire africaine, c'est quelque chose dont les colons même auraient dû s'occuper, ça, d'emblée. Vous ne pensez pas ? C'était quand même... C'était parce que c'est important, l'histoire d'un pays. Et pourquoi ça n'a pas été fait pour vous ?
Il y a un livre... Histoire générale de l'Afrique qui a été écrite par mon ancien professeur Joseph Kizerbo qui est décédé. Mais le livre, on le trouve à l'Armatan, Histoire générale de l'Afrique de Joseph Kizerbo. Quelqu'un qui veut connaître un peu l'histoire de l'Afrique peut se référer. C'est un livre de référence. Ça donne les lignes générales de cette histoire-là. Hein? Si quelqu'un pouvait... Parce qu'actuellement, il y a suffisamment de monographies par pays et même par peuple. Donc,
qu'est-ce que vous appelez ça ? Il n'y a qu'une monographie, c'est quoi en fait ? Je ne comprends pas.
Des monographies, c'est-à-dire la monographie, ça par exemple, des recherches historiques qui intéressent un peuple.
D'accord.
Par exemple, les lobbies.
D'accord.
Ou bien qui intéressent une région. Bon, si on prend une région, par exemple... le Cameroun ou bien, bon, prenons le Burkina Faso, il y a des monographies sur telle région, le nord, le centre, le sud-ouest, ainsi de suite. Et on peut faire l'histoire générale de la Haute-Volta en utilisant ces monographies-là.
Oui.
Mais il faut que les historiens s'y mettent.
Oui.
Mais il n'y a pas tellement d'historiens africains pour faire ça.
Il y en a très peu. Est-ce que vous retrouvez aujourd'hui ici en France justement ces séparations entre clans? Est-ce que les gens se mettent ensemble ici? Est-ce qu'on recompose un peu les tribus et les clans ici? Vous voyez les mêmes peuples?
Ben, les gens se mettent déjà par pays.
Oui.
Bon, et ils se regroupent déjà par pays et dans ces regroupements par pays. Et se forment des regroupements régionaux.
Oui.
Bon, il faut dire que si on voulait faire des regroupements ethniques, ce serait compliqué.
Bien sûr, bien sûr. D'autant plus qu'aujourd'hui, ils sont loin de leur pays d'origine, tous ces gens-là. Mais
oui, il n'y en a pas beaucoup.
Est-ce qu'ils s'apprécient entre eux? Est-ce qu'il y a des liens forts entre eux? Ou alors, ils restent quand même éloignés les uns des autres?
Non. Non, c'est devenu des relations humaines.
Oui, c'est beaucoup amélioré quand même. Ouais.
Si on vient d'un même pays, surtout les nouveaux pays, en général, on s'apprécie et puis on essaie de... Bon, en général, les pays ont fait de gros efforts pour apprendre aux jeunes l'histoire de leur pays,
ouais,
c'est-à-dire
ouais.
Région par région ou globale.
Et pour en revenir à ces petits métis, en fait, ils devenaient quoi, ces petits métis? On n'est pas allé jusqu'au bout tout à l'heure.
Donc, il y avait deux grands centres. Oui. Un à côté d'Abidjan, à Benjerville,
oui.
Et un autre à Katibougou, à côté de Bamako.
Oui.
Et on mettait les petits métis de l'AOF là-bas, de l'Afrique occidentale française. AOF, c'est l'Afrique occidentale française. Parce qu'il y
D'accord.
avait deux Afriques françaises, AOF, Afrique occidentale française, et AEF, Afrique équatoriale française. Donc, on les mettait là. Ils avaient des instituteurs ou des professeurs. C'était en fait pour leur donner une formation, un enseignement et une formation professionnelle. C'était pour
D'accord.
ne pas. Parce qu'il disait, j'avais lu des archives où le gouverneur disait, c'est quand même des enfants qui sont issus de notre sang. On ne
Ouais.
peut pas, on peut pas les
Les
renier ça,
abandonner.
voilà, les abandonner comme ça, comme les indigènes, comme il disait. On ne peut
Ouais.
pas les laisser tomber comme les indigènes. Il faut quand même leur donner une formation et puis un petit métier, ne serait-ce qu'un petit métier.
Ouais.
Il faut leur donner un métier, quoi.
Et est-ce
C'est-à-dire les
que
sortir un peu d'affaires.
Et est-ce que et donc alors dites-moi ce qu'ils devenaient et après je vais vous poser une autre question. Et donc on les éduquait, on leur faisait l'école, la classe, c'est ça, on les laissait pas tomber en fait.
Non, ils devenaient médecins, ils devenaient instituteurs, enfin, ils avaient toutes sortes de métiers, quoi.
Oui.
Mais on ne les envoyait pas en France hein, pour rechercher leur père. Hein. C'est
Ah, on les
pas.
envoyait pas en France. Oui,
Non,
vous.
ceux qui allaient en France, c'était plus tard, bon, quand ils avaient réussi. Mais bon, beaucoup ont recherché, beaucoup comme moi, ont recherché leur père. Moi, j'ai recherché mon père, je voulais voir sa tête.
Oui, parce que j'allais vous poser la question si vous aviez, vous étiez rapproché de certaines femmes métisses ou garçons métisses qui, comme vous, étaient en quête de ces papas. Vous en avez croisé?
Non, bon, j'en ai croisé très rarement, mais il faut dire que moi, j'ai toujours vécu en milieu 100% africain.
Oui.
Donc, je n'avais pas. Parce que les métis, ils ont eu des drôles de réactions. Reconstituer un milieu métis, beaucoup faisaient ça. Mais moi, je n'aimais pas ça du tout. Moi, je me sentais. Bon, je suis métis, je ne peux rien faire, mais je me sentais africain
Ouais.
avant tout.
Et lorsque vous
Donc,
dites
j'étais
ils
plus.
recomposaient des milieux métis, c'est-à-dire
Voilà, alors
entre eux?
donc, faut pas se plaindre après pour dire qu'ils étaient méprisés ou
Oui,
bien. Oui, parce qu'ils
d'accord.
étaient méprisés. Pourquoi? Parce que c'était des sans-pères. Bon, comme on dit, des sans-pères. Et être sans-père en Afrique, c'est terrible.
Ah bon?
Ah, ben oui, quand même, qu'un père qui ne vous reconnaît pas, c'est vraiment pas.
Oui, c'est la honte un
C'est pas
peu,
la
en
panacée,
fait.
quoi.
Ouais. Ouais.
Moi, j'ai beaucoup souffert de ça. Parce que quand j'étais jeune, avant de rencontrer mon père, je passais mon temps à enterrer mon père. Parce qu'à l'école primaire, les enfants sont vaches. Et il est où ton père? Je
Ouais,
dis, mon père
ouais,
est mort. Tu ne savais
ouais.
pas ça? Mon père, il est mort. Et dans ma tête, après, je pleurais toute seule.
Oui.
Passer son temps à enterrer son père, c'est terrible. Et après, quand je suis venue en France et que je l'ai retrouvé, j'ai dit, écoute, ne t'inquiète pas. Je ne te demande rien. Je voulais simplement te voir. C'est tout. Après, il a dit, bon, on va aller, je vais à la mairie, je vais faire un acte de reconnaissance, je vais te reconnaître. J'ai dit, non, 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 non. Je n'ai pas envie de créer de la zizanie dans ta famille. Non, non, tu ne fais pas ça. Je suis de père inconnu, je reste père inconnu. Ça ne m'empêche pas de vivre, je suis habituée.
Oui.
Je
Vous
dis, je
aviez
ne
la...
veux pas créer
Oui.
des problèmes dans ta famille.
Mmh.
Et parce qu'il était tellement soumis à sa femme, parce qu'il était vieux. Et
Oui,
moi,
oui.
je pleurais parce que sa femme lui donnait des fruits pourris à manger. Oh là 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 là. Oh. Et puis, il était jaloux. L'après-midi, j'allais le promener et puis il voulait toujours prendre un pot. Et on s'asseyait pour prendre le pot. Et quand ses copains me regardaient, ils les engueulaient. Vous n'avez jamais vu une fille? Une jolie
Ah
fille.
oui. Il était possessif comme papa.
Il
Et
était
vous
possessif.
vous l'avez retrouvé comment en fait? À partir de quel document?
À partir des documents de l'école de la ville où je suis née. Parce
D'accord.
qu'il était le directeur, il était d'abord le directeur de cette école, puis inspecteur d'académie. Et donc, j'ai demandé au directeur de l'école qui était venu se faire soigner en France, je lui ai dit, écoute, tu connais telle personne qui était donc directeur de l'école de chez nous, de Gawa. Il dit oui, je connais, il y a son nom dans les archives. Bon, je dis, bon, tu regardes dans les archives, tu m'envoies son adresse. Et il m'a envoyé son adresse. J'étais étudiante à cette époque-là, j'habitais Nanterre, à l'université de Nanterre, et je lui ai écrit, tout simplement. Je lui ai écrit, j'ai dit, bon voilà, je suis d'origine voltaïque, je fais des études d'histoire à l'université de Paris, en Sorbonne, et comme j'étudie l'histoire coloniale, j'aimerais rencontrer M. Tell, qui a été instituteur dans ma ville natale, de telle année à telle année. J'ai envoyé ça à la mairie de sa propre ville, de sa petite ville.
Ouais.
Et le maire a pris la lettre.
Il a répondu.
Il est allé lui donner.
Ah, il est allé lui donner.
Oui, oui. Au lieu de me répondre, il est allé lui donner la lettre. Et c'est lui-même qui m'a répondu.
Ah, c'est lui-même qui vous a répondu. Ah,
mais voilà.
C'est une super belle histoire. Hein, parce que,
c'est une belle histoire. Bah, il m'a répondu gentiment en me disant... Je ne pourrai pas vous recevoir le week-end prochain parce qu'il y a des élections.
Oui.
En revanche, le dimanche d'après, vous pouvez venir.
Mm-hmm. Et vous pensez que, vous l'êtes dit après, il avait compris que vous étiez sa fille ?
Il avait compris.
Ah, il avait compris. Mais peut-être que il avait très envie de vous connaître
oui.
aussi. Hein. Il
La avait... curiosité aussi, oui, oui.
Ben oui.
Il avait très bien compris.
Ouais, ouais.
Quand il m'a vu arriver, il a ouvert de grands yeux.
Bah oui, vous m'avez dit. Vous m'avez dit. Vous étiez aussi belle que votre mère. Hein?
Il a ouvert de grands yeux. Alors, mais il était content. Je sentais qu'il était content.
Ouais.
Et vraiment, je bénis sa femme qui m'a reçu vraiment sans souci, sans problème.
Ouais.
Parce qu'après tout, elle aurait pu faire des histoires. Mais elle n'a pas fait d'histoire. Je suis restée chez eux, je suis allée plusieurs fois chez eux, j'ai dormi chez eux et tout et tout. Vraiment, ils habitaient en face du canal du Briard. Vraiment, ça a été... Bon, j'ai eu beaucoup de chance. Hein.
Oui, vous avez... Oui, oui, c'est... Il y a eu beaucoup d'amour hein, quand même entre vous, là.
Oui,
c'est,
oui,
c'est génial.
Oui, entre nous, oui. Et puis, ils m'écrivaient. Toutes les semaines, j'avais deux lettres.
Oui.
Ouais.
Bah, il devait être très fier. Il devait être très fier de vous quand même parce que vous.
Très fier.
Bah oui, vous faisiez des sacrées études quand même. Hein.
J'étais très fier parce que lui, il dit, t'en as de la chance parce que moi, je ne suis qu'instituteur. J'ai dit, mais c'est beau, instituteur. Sans les instituteurs, nous, on n'aurait pas pu faire ce qu'on fait.
Mais oui, mais vous vous rendez compte la fierté là, ensuite d'avoir sa
fier.
Fille.
Il était très fier. Il voulait pas que les gens me regardent. Il les engueulait.
Et d'avoir sa fille professeure en université, docteur en histoire,
oui.
Vous vous rendez compte
oui,
le chemin, comme quoi hein
Le chemin.
Ouais.
Ouais, ouais. Mais je n'ai pas eu de soucis de ce côté-là. J'ai eu de la chance, je n'ai jamais redoublé une année. Donc, je suis allée tout droit jusqu'à la fin. Quoi. J'ai soutenu ma thèse à la Sorbonne sans souci comme ça. Oui. Bon, mais ça a été... il était très fier.
Ah oui, il était. Bah, écoutez, c'est une super belle histoire, Jeanne. Et donc, bah, écoutez, si aujourd'hui quelqu'un est à l'écoute hein, et quelqu'un a envie d'écrire cette histoire, en tout cas de la,
hein, vraiment,
d'en faire quelque chose,
vraiment.
Même parce que c'est presque, j'imaginais même la scène d'un film avec votre grand-mère qui donnait des coups de cailloux sur les volets.
Il lapidait les volets.
Alors, il y a vraiment de quoi raconter. Mille
il
merci.
Lapidait les volets.
Mille merci, Jeanne, de votre belle intervention. Mille merci à vous.
Oui. Et donc, si vous m'enverrez l'adresse de la personne, si quelqu'un se manifeste.
Oui, bien évidemment.
Mais
bien
je n'ai
évidemment.
Pas laissé mon adresse.
Non, mais vous restez en ligne. C'est la fin de l'émission. Vous restez en ligne et Natacha va tout vous donner maintenant. Bonsoir,
okay,
Jeanne.
Merci, Olivier.
Bonsoir, je vous embrasse. Bonsoir.